Sois béni.
Oui, merci, c'est trop bien. Je pense que je suis émue de l'esprit de famille, en fait, qu'il y a. Il y aura peut-être des différents moments comme ça, avec les larmes et tout ça. Mais je me sens... Bah, je me sens vraiment bien avec vous, je me sens encouragée. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant que vous priez pour moi. J'ai l'impression que c'est une histoire parmi d'autres, mais qu'on fasse de la place pour libérer la parole, et, c'est-à-dire vraiment qu'on parle de ces sujets qui sont difficiles, qui sont tabous. Peut-être que ça va ouvrir d'autres prisons et d'autres paroles. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, moi, ça m'a vraiment encouragée, en tout cas, ce moment, à l'instant. Merci pour ça. Vous êtes une super famille et je vous aime. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. En fait, je m'apprête à témoigner d'un abus sexuel que j'ai vécu quand j'étais petite et de tout mon parcours de guérison jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un peu une espèce de tension. C'est des sujets qui sont vraiment tabous, qui sont verrouillés dans la société, qui sont difficiles à aborder. Et quand on les aborde, c'est avec beaucoup de souffrance, de larmes. Et je pense que Dieu veut vraiment guérir les gens et nous libérer. Si j'en parle ce soir, enfin, j'ai plusieurs motivations. Déjà, moi, je veux remercier mon héros, comme on a chanté à l'instant. Voilà, Jésus, c'est indescriptible, en fait. C'est un magicien, je ne sais pas comment dire. Il libère, il guérit, il soigne, et après, il donne même la force pour ensuite porter le flambeau et aller plus loin. Et voilà, donc c'est d'abord pour le remercier, lui. C'est aussi pour encourager toutes les personnes qui sont passées par des choses difficiles, des abus, d'une sorte ou d'une autre, mais c'est pour vous encourager vraiment à ouvrir ce sujet et à vous laisser être soigné par Dieu, par les frères et sœurs aussi compétents, et être ensuite des personnes fières, libérées, qui peuvent avancer sans porter toutes ces casseroles du passé. Et mince, j'ai pensé à une troisième raison, mais je m'en souviens plus. Une idée. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que bon, comme les émotions sont beaucoup liées à toute l'histoire, parfois ce n'est pas net dans le récit, donc n'hésitez pas à poser des questions. En fait... Donc j'ai grandi à Nantes dans une famille chrétienne, dans une maison avec un jardin, et à côté de notre maison et notre jardin, la maison mitoyenne, il y avait une famille avec deux parents et deux enfants. Et chez moi, de ce côté du mur, on est quatre enfants. J'ai deux grandes sœurs qui ont 2 ans d'écart. Ensuite, il y a un petit trou de 5 ans. Et après, il y a mon frère et moi, on a juste 1 an d'écart. Donc, ça faisait un peu par binôme. On disait les filles et les petits. Donc, moi, j'étais dans l'équipe des petits. Et donc, dans cette famille voisine, il y avait une fille qui avait l'âge de mes sœurs et un petit garçon qui avait l'âge de mon frère et moi. Donc, ça faisait un peu deux trios. Et en fait, on a beaucoup joué ensemble, les filles entre elles et nous, les petits, ensemble. Et presque systématiquement, quand on rentrait de l'école, après le goûter, tout ça, on se retrouvait et on jouait soit dans un jardin, soit dans l'autre, ou une maison ou l'autre. Mais en tout cas, on était presque tout le temps fourrés ensemble et on s'éclatait vraiment, quoi. Je ne peux pas dater très précisément, mais je sais que j'avais entre 6 et 7 ans. Quand il y a ces événements qui se sont produits. Alors, ces événements, c'est que quand on jouait ensemble, du coup, de leur côté du mur, dans leur jardin, le père, je ne sais pas trop si je donne un faux nom ou je ne sais pas trop ce que je fais. Le père. Ok. Donc, le père s'arrangeait déjà pour être là. Je pense qu'il cumulait les arrêts de travail. Et sa femme, à lui, elle travaillait, donc elle était souvent pas là. Elle avait un travail qui lui prenait beaucoup de temps, donc elle était très souvent pas là. Et lui, très souvent là. Et donc, cet homme s'arrangeait pour être là avec nous quand on jouait. Et à des moments où j'étais seule avec lui pour, par exemple, aller boire un verre d'eau dans la cuisine ou aller chercher un jeu qu'on avait oublié dans la chambre de notre acolyte, il s'arrangeait pour que personne ne voit. Et il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il en a profité pour me montrer son sexe, donc ce qu'on appelle de l'exhibitionnisme, me proposer de toucher, et je ne sais pas par quelle force, mais Dieu merci, j'ai jamais dit oui. Donc ça, c'est une première chose qui est arrivée plusieurs fois. Il y a une autre chose qui s'est passée aussi, c'est que quand on jouait tous les trois dans le jardin, par exemple, ça nous est arrivé de faire des mêlées, des grosses bagarres, je sais pas, on fait un jeu, un foot ou n'importe quoi, et ça finit en bagarre de copains, quoi. Et lui, il se joignait à notre bagarre, et en fait, il en profitait pour me toucher, donc j'étais pas nue, mais me toucher quand même, alors que les autres étaient là. Et c'était horrible, parce que moi, je savais pas ce que c'était, ni l'exhibitionnisme, enfin, je veux dire, un zizi, enfin, je connaissais rien de tout ça, en fait. À 6 ans, 7 ans, vous vous imaginez bien, si vous pensez à des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, c'est pas du tout dans leur esprit. Et j'étais comme pétrifiée les fois où ça se passait, parce que même si je ne comprenais pas, j'avais vraiment conscience que c'était mal. Et que ce qui se passait, c'était en train de... c'était pas normal, qu'en plus, les autres, mon frère et notre ami, n'étaient pas au courant, qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne comprenaient pas non plus. Enfin, c'était un espèce de secret mauvais qui me rendait sale. Et ça, j'en avais conscience, même si je ne comprenais pas la portée de ce qui se passait. Et il y a une autre chose qui se passait aussi régulièrement, c'est que il me regardait comme si, je dis comme si, mais comme s'il était en train d'agir sur moi. Je pouvais être à distance, mais dans ses yeux, il y avait de l'action, en fait. Je vous décrirai pas quelles actions, mais je me souviens de ces regards qui me gênaient, mais d'une puissance. J'étais démunie. Nous, on était là, on jouait comme des enfants, et tout d'un coup, je suis face à un grand monsieur que je comprends pas et qui me regarde, et je me sentais tellement mal, comme si, vraiment comme si il était en train de me prendre quelque chose juste par son regard. Et comme j'étais petite, je ne peux pas vraiment dire pendant combien de temps, à quelle fréquence. Mais voilà, ces choses se sont produites. Et un soir, j'attendais dans le salon chez moi. Mes parents finissaient une réunion de prière ou un truc du genre. Il y avait souvent du monde à la maison parce qu'ils étaient en fait responsables d'une église à Nantes. Et j'ai attendu le soir, j'attendais sur une marche et j'étais stressée et j'avais peur de ce que j'allais devoir leur dire. J'avais l'impression que j'étais coupable en fait. J'étais hyper angoissée à l'idée de devoir leur dire. Donc ça avait mûri pendant plusieurs jours et voilà, encore une fois, je ne peux pas dater, peut-être plusieurs semaines, mais en tout cas, ce soir-là, je m'étais dit, allez, je vais réussir. Et donc, on n'a pas nos souvenirs complètement clairs de notre enfance. Moi, j'ai des instants, comme ceux que je vous ai racontés par rapport au père de la famille voisine. Et puis, ce moment-là, sur cette marche, je m'en souviens aussi bien, parce que c'était vraiment la peur de quelles réactions ils vont avoir, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est hyper courant quand on est victime de ce genre de choses, c'est qu'en fait, on pense que c'est de notre faute. Et la culpabilité, après, vous colle à la peau et vous la traînez pendant des années, en fait. Et donc, à 6-7 ans, là, j'ai parlé à mes parents Et je leur ai dit avec des mots d'enfant que le voisin, il faisait des choses bizarres et j'étais pas trop capable d'expliquer quoi, mais j'ai dû dire le mot zizi ou quelque chose pour qu'ils comprennent que c'était quand même de cet ordre-là. Et là, le souvenir n'est pas clair, mais je sais que la réaction de mes parents, elle a été, qu'elle m'a fait peur parce que j'ai cru que c'était de ma faute du coup. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous décrire, mais je sais que mon sentiment, c'est « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et je pense que ça n'a pas duré très longtemps, la soirée s'est terminée. Et la conséquence de ça, ça a été que mes parents ont choisi d'aller voir le père en question et parler avec lui, peut-être mettre les choses au point, je ne sais pas avec quelle fermeté, mais en tout cas, ils ont eu cette conversation avec lui. Et ensuite, nous, les enfants, c'était une interdiction formelle de retourner chez eux, dans la maison et le jardin. Sauf que tout ça, c'était un secret, en fait. Mes frères et sœurs ne savaient pas pourquoi. Donc, on est quatre, les trois autres ne savaient pas pourquoi. Mais ils avaient interdiction de retourner chez leur meilleure copine, chez leur meilleur copain. Et quand t'as 7 ans, ton meilleur copain, c'est tout ce qui compte pour toi. C'est jouer, c'est voilà, inventer des jeux dans le jardin avec des bâtons et courir et les cabanes et les machins. Et tout d'un coup, interdiction de retourner chez eux. Et même à ton copain, tu peux pas lui expliquer, je peux pas venir chez toi, alors que la veille et toutes les années d'avant, en fait, c'était ce qu'on faisait tout le temps, quoi. Donc ça, peut-être que ça vous paraît anecdotique, mais en fait, ça a beaucoup pesé. Parce que pour une petite fille, c'était de ma faute qu'on n'avait pas le droit de s'amuser et que j'avais privé aussi mes frères et sœurs de tout ça. Et c'était à cause de moi, parce que moi, j'avais parlé de quelque chose que j'avais plus ou moins fait, mais en tout cas, j'étais dans l'action avec le père. Donc, il y a eu ce sentiment de culpabilité qui est venu très vite. Et le secret, on ne dit pas, on n'explique pas. Et voilà quoi, on tait ce qui s'est passé. J'ai mis des années avant d'en parler pour la première fois. Parce qu'il y avait la culpabilité, la honte, la haine aussi. Cet homme, c'est comme si je le retenais dans mon cœur et que je le détestais et que j'y pensais régulièrement. Je le déteste et j'avais beau avoir une petite fille joyeuse, plutôt épanouie, avec des activités, voilà, les frères et sœurs, les scouts, les machins. J'aimais les gens et ça se passait bien partout ailleurs. Mais je le détestais et j'y pensais régulièrement. Et là, j'ai des petits flashs de moi dans différentes situations qui pensent « Ah, cet homme, et je le déteste et tout. » Et je ressens la colère. Et vraiment, c'est une émotion qui peut vous donner des bouffées de colère. Je la sentais, cette haine. Mais je racontais pas, je disais ça à personne. Et un jour, petite, j'ai essayé d'en parler à ma meilleure amie de l'époque. Mais j'ai pas su et elle a pas compris, donc ça a été un peu un échec. En tout cas, je m'étais dit que c'était trop bizarre pour le raconter, donc j'avais commencé sans tout dire et puis elle avait pas compris et donc voilà, ça c'était une tentative qui n'a pas marché. Et des années plus tard, après mon bac, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie. Je suis partie en Afrique du Sud faire une école avec le ministère Iris Ministries. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est Heidi Baker, peut-être cette dame vous parle. Elle a monté une école en fait humanitaire missionnaire au Mozambique. Il se trouve que cette année-là, les frontières du Mozambique étaient à moitié fermées. Donc on a fait un mois de l'école en Afrique du Sud et après un mois au Mozambique. Et donc dans cette école, comme dans beaucoup d'écoles chrétiennes d'ailleurs, on parle de ces sujets, on accorde du temps sur ça et on dit « bon alors toi, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Qu'est-ce qui peut te bloquer aujourd'hui ?» Et on fait la liste, les abus verbaux, physique, sexuelle, machin, tout ça. Et je connaissais mon secret parce que j'y pensais très régulièrement. C'était vraiment un poids quotidien dans ma vie qui avait presque forgé... j'avais l'impression d'être double, en fait, avec ce secret. Parce que ça avait forgé une Anna dans la haine et de l'autre côté, l'autre Anna que les gens connaissaient. Donc, j'avais ça. C'était très clair dans ma tête, mais je n'avais pas envie d'en parler. Je crois que je n'étais pas encore prête. Et pourtant, j'avais 18 ans et c'était... des sujets dont j'avais déjà parlé avec d'autres personnes, mais moi, le mien, mon secret, j'en avais pas encore parlé. Et donc ça a été peut-être la première occasion où on est venu me chercher pour me dire, alors toi, pas sur ce ton-là, mais voilà, toi, qu'est-ce que tu as vécu? On peut parler de ces sujets, on peut les traiter et tout ça. Et j'ai pas osé en parler. Mais quelques mois plus tard, dans cette même année sabbatique, je suis allée cette fois-ci au Canada faire aussi une école avec le mouvement Catch the Fire. Quand on voulait s'occuper des enfants de l'église, il fallait remplir un petit questionnaire pour voilà, savoir à peu près qui vous êtes, est-ce que c'est OK ou pas que vous occupiez des enfants. Et je remplis ce questionnaire, je coche les cases, voilà, je raconte ma vie et tout, et je rends mon questionnaire. Et une fois rendu, je repense à ces questions et je me dis, mais c'est quand même fou, j'ai coché non à la case abus sexuel. Et ça me, tout d'un coup, les choses s'éclairent et je me rends compte que ce que j'ai vécu, c'est ça, un abus sexuel. Et moi, j'avais jamais collé les mots, en fait. Bon, je savais que j'avais un secret, comme je vous disais, quand j'étais au Mozambique, tout ça, j'avais bien conscience qu'il y avait quelque chose à dire, mais j'avais jamais mis les mots, ne serait-ce que dans ma tête, ce que j'ai vécu, c'est un abus sexuel. Et donc, déjà, de le réaliser, ça a été, je sais pas comment décrire. Un soulagement. Tout d'un coup, c'est légitime en fait d'être pas bien à cause de ce sujet, enfin sur ce sujet, parce que c'est grave quand on dit abus sexuel. Moi, j'ai l'impression qu'on parle des autres, qu'on parle de choses. Il y en a des pires, hein, mais qu'on parle de toutes ces choses-là et pas de ce que moi j'ai vécu. Et quand j'ai fait le rapprochement, mon histoire et ces mots-là, abus sexuel, tout d'un coup, j'ai compris la gravité des choses et le sujet. Je sais pas comment dire. Il est déjà un peu. Enfin, je l'ai vu devant moi et je me suis dit, OK, il faut absolument que j'en parle, en fait. Donc, j'en ai parlé une première fois dans cette école quand j'étais au Canada. Et puis, quand je suis revenue en France, j'en ai aussi parlé. J'ai été accompagnée par différentes personnes qui sont formées sur ces sujets-là à Nantes. Et j'en ai parlé à mes parents. J'ai pas osé en parler à mes frères et sœurs, j'étais pas encore prête. Et déjà d'en parler, alors la première fois c'est très difficile, la deuxième fois c'est très difficile, la troisième fois c'est très difficile. Mais plus on en parle, plus on peut aller un peu plus loin dans les détails. Enfin, il n'y a pas besoin de tout décrire et la couleur de vos chaussures, mais je veux dire, en tout cas, on peut voilà, de plus en plus poser des mots. Et les mots sont vraiment, vraiment, vraiment salvateurs. C'est ouvrir sa bouche, c'est dingue comme ça libère déjà. Les groupes de parole, c'est magnifique. C'est peut-être que le premier pas, mais ce premier pas dans le chemin de la guérison, il est complètement dingue. Donc si ici, ce soir, il y a des personnes qui ont des sujets comme ça dont ils n'ont jamais parlé ou trop peu, ne serait-ce que de commencer par parler, ça fait une différence de fou, en fait. Et je vous le dis vraiment sincèrement de tout mon cœur, je vous souhaite d'être délivré, d'être libéré dans votre vie, de pouvoir aller de l'avant sans ces poids qui vous retiennent en arrière. Et la parole à une amie, quelqu'un de confiance, c'est vraiment primordial pour commencer ce chemin. Même si c'était pas facile, hein, je le redis. Du coup, j'ai été accompagnée par des personnes et j'ai fait des différentes étapes de guérison. Elles n'étaient pas forcément toutes coordonnées les unes par rapport aux autres, mais je saisissais les occasions quand on me proposait de prier pour moi. J'ai fait par exemple un sozo, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, outil. On est accompagné par des gens qui, eux, sont formés sur ces sujets-là. Et donc c'est une sous forme d'entretien. Et en fait, on revisite les souvenirs et on se demande où était Jésus à ces moments-là. C'est une bonne question. Quand on vit des choses horribles, ma situation ou d'autres ou pire, où est Jésus dans ces moments-là, en fait ? Pourquoi on vit ça ? Alors que, moi j'avais déjà conscience de Jésus quand j'avais 7 ans, j'avais déjà, je l'aimais, j'étais à fond, tout ça. Et donc si on croit en ce Dieu qui nous sauve, qui est avec nous dans la vie, qui nous fait du bien, qui nous guérit, pourquoi c'est possible que sur Terre, il y ait autant de gens, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, qui puissent vivre des situations d'abus comme celle-ci ? Et donc, dans ce sozo, je ferme les yeux et je revois certaines situations. Déjà, c'est douloureux de retourner dans les souvenirs, de fermer les yeux, de revoir les choses. Ça fait mal. Et de voir Jésus qui était là, et qui n'a pas une seule seconde cautionné ce qui était en train de se passer, mais qui bouillait de colère à l'intérieur, parce que ça l'insupporte, le mal. Parce qu'il ne nous a pas créés pour ça. Ça m'a fait du bien de le voir présent dans cette situation, et ça m'a déjà guéri de me dire qu'il était là et il n'était pas absent. Et il n'a pas désiré ce qui s'est passé, et il veut me guérir de ce qui s'est passé. Donc, cette méthode sozo, ça a été juste un point dans le parcours, il y a eu d'autres étapes. Et en fait, à chaque fois, c'est comme si à chaque étape, c'est comme si je faisais un échange avec Dieu, que je lui disais, je te donne cette haine qui me pourrit à l'intérieur, je te la donne, et toi, en échange, tu me donnes de la paix. Tu me donnes de la confiance en moi, tu me donnes, de l'amour pour mon corps, tu me donnes le contraire de la peur des autres. Et je faisais des échanges du troc avec Jésus. Et du coup, de troc en troc, à chaque fois, de dose en dose d'amour et de paix, tout ça, j'en suis arrivée à me sentir soignée sur ce sujet. Et aussi parce que, à un moment donné, j'ai choisi de pardonner. Et pardonner, c'est bizarre de pardonner parce que on ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer. Ce que cet homme a fait, c'est grave, c'est un crime, ça s'appelle de la pédophilie, c'est condamné par la loi, c'est une horreur. Mais à un moment donné, on retient la colère contre cette personne, comme moi, petite, la haine, et je l'ai pardonné lui pour ce qu'il a fait, mais ça m'a surtout libérée moi, en fait. Et je ne suis pas la justicière dans ce monde qui rendra cet homme, ou je ne sais pas quoi, enfin en tout cas qui punira cette personne. Donc ma part, dans mon cœur, d'avoir pardonné, ça m'a vraiment libérée moi. J'ai choisi d'accorder mon pardon. Et c'est pour ça que ça existe, le pardon. C'est pas pour des choses qui sont faciles à pardonner, c'est pour des choses qui sont dures à pardonner. Je sais pas, on pourrait dire que c'est pas pardonnable. Mais Jésus nous pardonne de ce qui n'est pas pardonnable. Et il nous demande d'en faire autant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Et ça, c'est pas notre business à la limite. Mais ça veut dire qu'il y a une puissance vraiment dans le fait de pardonner. Moi, je dirais, quand je me sais pardonner par Jésus, moi, ça me libère dans ma vie de savoir que je suis pardonnée. Mais quand je pardonne les autres aussi, tout d'un coup, ce que je tenais en captivité là, pouf, ça s'ouvre. Et je peux à nouveau respirer et être bien et tout ça. Je dis pas que je vais aller faire la fête chez eux. Je dis pas que je vais reprendre contact avec cette personne. Mais en tout cas, moi, je suis libre de la colère et de la haine que je retenais dans mon cœur. Et j'ai même décidé un jour d'aller le voir. Entre-temps, mes parents ont déménagé, bon, 200 mètres plus loin, mais quand même. Donc j'avais moins de chances de le croiser. Et je suis allée le voir, je sais pas, je devais avoir 20 ans. Je suis allée sonner chez lui et je suis allée lui dire, voilà, tu te souviens de ce qui s'est passé quand j'étais petite ? Il, à mon avis, il ne s'attendait pas du tout à ça. Il regardait un peu partout et il m'a dit « Oui, j'en souviens, pourquoi ?» Et je lui ai dit « Ben voilà, je voudrais te dire que je t'ai pardonné. » Et ça aussi, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Il a répondu que c'était l'alcool, le travail, voilà. Bon, je ne voulais pas entendre d'excuses parce que je n'étais pas venue pour ça, en fait. Moi, finalement, vous pouvez peut-être penser que ça fait égoïste, mais en fait, j'y allais pour moi. J'y allais pour dépasser cette peur d'aller le voir, de l'affronter, en fait, enfin, de le confronter pour lui dire, déjà, je sais qu'on sait, enfin, on sait qu'on sait ce qui s'est passé. Il a dit oui, donc quelque part, il a confessé. Et ça, bah, ça m'a fait du bien aussi. Il n'a pas non plus ignoré. Et de lui dire... Eh ben, je te pardonne. Je me suis sentie sur le coup très étrange parce que c'est pas du tout agréable à faire. Je ferai pas ça tous les lundis matins, mais en tout cas après, j'étais aussi libérée et je me sentais vraiment bien et j'étais contente d'y être allée. Et du coup, je sais même pas comment décrire. C'est un sujet qui me semble trop grand pour moi. Mais le pardon, pardonner, c'est magnifique. Donc, je prie que Dieu vous emmène aussi sur des chemins de pardon, sur toutes les choses qui sont non pardonnées dans votre vie, contre vous-même, contre les autres, et que tout ça se soit libéré par la beauté et la magie du pardon de Dieu. Philippe, tu peux mettre la petite vidéo. J'ai lancé mon auto-entreprise en 2021, je crois. En 2020. Et le premier projet que j'avais à cœur de faire, c'était monter cette petite vidéo. C'était pas du tout pour être commercialisée ou quoi, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, j'avais du temps et je me disais, OK, maintenant, c'est mon business. Donc, je suis graphiste et voilà, je fais des différents objets visuels pour d'autres. Et là, je me suis dit, OK, le premier objet visuel que je vais faire, c'est raconter mon histoire avec des petits papiers. Donc, ça s'appelle du stop motion. Et voilà, c'est 5 minutes, je crois, juste pour vous raconter ce parcours.
J'avais 6 ans et c'est arrivé souvent. À chaque fois que je venais jouer avec son fils, mon voisin de l'époque. J'ai dit à mes parents que c'était bizarre chez les voisins. Interdiction d'y retourner. J'ai eu honte parce que j'avais gâché une amitié. Et j'ai eu de la haine, beaucoup de haine. Je détestais qu'on me touche. Et je n'en ai jamais reparlé. À 18 ans, j'ai enfin mis les mots. Dieu m'a dit, allez, il faut sortir de cette prison. Alors j'ai commencé un chemin, celui du pardon. Chaque fois, j'étais un peu plus libre. La prison, en fait, c'était surtout la haine. Aujourd'hui, je suis libre. D'ailleurs, je suis devenue tactile. J'en parle pour que d'autres prisons s'ouvrent. La liberté, c'est possible. Et moi, c'est mon Dieu qui me l'a rendue. Alors, rien n'excuse de tels actes, mais on peut être libre et faire de ce mal une force.
J'ai posté cette vidéo sur les réseaux sociaux et j'ai eu des réponses de gens qui m'ont dit « moi aussi » et... Alors, je me suis sentie un peu désœuvrée parce que j'ai pas les outils pour accompagner ces personnes, mais... Je me suis sentie aussi... Je me suis sentie... je ne sais pas quel mot utiliser. J'étais heureuse de me dire que mon histoire, elle pouvait aider d'autres. Et... Ben voilà, comme dit, moi, je ne suis pas professionnelle du sujet. Je n'ai pas tellement de ressources sur le sujet. Mais j'ai mon histoire et ma parole, c'est-à-dire voilà, mon témoignage, et j'ai Dieu aussi. Et avec tout ça, je peux aider d'autres, je peux en parler, comme là ce soir. Et merci pour cette opportunité, je trouve que c'est hyper important, parce que c'est des sujets qui sont cristallisés, il faut ouvrir la bouche, et il faut que... Ce serait génial si dans l'église, ce n'était pas des sujets tabous, ce serait génial que, voilà, il y ait vraiment des groupes de parole sur ces problèmes-là, et là on parle d'abus sexuels, mais toutes les sortes de difficultés, d'abus, voilà, en tout genre. Si on pouvait ensemble s'accompagner, avancer et se voir changer aussi pour être des enfants de Dieu libres et vivre nos vies sans ces chaînes qui nous retiennent en arrière. Et donc j'ai une dernière chose à vous raconter, c'est que en fait au début, alors il y a un an, je parle avec une amie qui a vécu quelque chose de similaire et qui a porté plainte. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait prescription, parce que ben, maintenant, ça fait plus de 20 ans, donc voilà, j'étais persuadée que c'était trop tard. Et je m'étais, je pense, persuadée, parce que ça m'arrangeait bien de ne pas avoir à me poser la question, est-ce que je porte plainte ou pas ? Et quand je discute avec cette amie, elle me dit « Mais si, Anna, tu peux porter plainte, tu peux, en fait, le délai, ils ont changé récemment, c'est plutôt bien. En fait, c'est à partir de la majorité... le délai de 20 ans, c'est à partir de tes 18 ans. Donc, j'étais dans les délais et je pouvais en parler. Il y a différents délais en fonction des crimes. Il y a 10 ans pour de l'exhibitionnisme, des images, des propositions. Il y a 20 ans pour des attouchements et il y a peut-être autre chose dans cette catégorie. Et il y a 30 ans pour des viols. Et je crois que c'est tout, viol. Donc, à ce moment-là, quand mon ami m'en parle, en fait, tout d'un coup, c'était comme une évidence. Je me suis dit, mais oui, en fait, bien sûr que j'ai envie de porter plainte. J'étais prête et j'avais limite envie pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est hyper important que ces actes diminuent. Et si on veut que ces choses horribles diminuent, il faut qu'on allume la lumière et qu'on parle de ces problèmes. J'ai envie de participer à cette société de lumière où on dit les choses. J'ai envie que peut-être ça puisse encourager d'autres, complètement au-delà de mon histoire, des gens que je connais pas. Juste, j'ai envie de faire partie de ces gens qui parlent et qui dénoncent. Et j'ai aussi envie, une autre raison, donc ce serait peut-être de protéger d'autres potentielles victimes de cette même personne. Et peut-être qu'il y en a déjà eu entre-temps, je sais pas. En tout cas, s'il devait y en avoir d'autres, que moi je parle maintenant, ça peut avoir un effet pour ces personnes. Une dernière raison, c'est que j'avais envie de le faire pour moi, au sens où là, officiellement, ce sera plus juste une histoire entre moi, Dieu, mes amis, ma famille, machin, mais ce sera officiel. Et cet homme, il va devoir aussi rendre des comptes devant la justice de ce qu'il m'a fait. Et de le voir confesser devant la justice que oui, ça s'est passé, que ça a un nom, que c'est condamné par la loi, c'est aussi une forme de libération, de rendre les choses officielles. Et donc, je suis allée une première fois dans un, à un commissariat où ça s'est très mal passé. J'ai été super mal reçue parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est qu'il y a beaucoup d'agents et d'agentes qui ne sont pas formés sur ces sujets, qui sont brutaux parce qu'eux, ils ont l'habitude de rembarrer de la racaille et je ne sais pas quoi. Enfin, et du coup, ils ne sont pas du tout aptes en fait, à recevoir des témoignages aussi remplis d'émotions et de fragilité. Et du coup, la personne m'a très mal reçue. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec des histoires comme ça. Donc je suis retournée dans ma voiture et j'ai fondu en larmes parce que je ne m'attendais pas à ça. Et j'y suis allée une deuxième fois dans un autre commissariat et là j'ai été bien reçue, ça s'est bien passé. Et quand je suis sortie de ce commissariat, ça peut paraître bizarre, mais en fait, j'étais joyeuse, je me sentais bien et j'avais la conviction que c'était bien ce que je venais de faire. Que c'était bien d'avoir participé à la lumière sur cette société et que en ayant en face de moi quelqu'un qui représente la justice, qui m'a dit « Oui, madame, vous êtes victime. Oui, madame, l'article machin, machin. » Enfin, qui rendait les choses officielles, en fait, c'était trop bien. C'était aussi une libération. Parce que jusqu'ici... Donc déjà, première étape, c'est entre soi et soi, puis à un moment donné, on réalise, puis après on en parle à une, à deux, à trois personnes, à 10, à 30. Et là, que ce soit officiel devant quelqu'un qui représente l'État, c'était encore une nouvelle étape. Moi, je pensais que c'est bon, tu vois, j'avais fait ma guérison, j'étais bien, j'étais soignée et tout. Et là, d'être allée dans ce commissariat et d'avoir vu une personne en face qui m'a dit, qui a confirmé en fait ce qui s'était passé et que c'était un crime au regard de la loi, ça m'a fait trop du bien. Et alors, on peut se demander pourquoi porter plainte quand on a pardonné ? Comment ça marche, les deux ensemble ? Peut-être ça rajoute une dimension, voilà, quand on est chrétien, si c'est Dieu qui fait justice, pourquoi moi, je vais devant la justice ? Et alors, j'ai pas vraiment les réponses, mais j'ai trouvé une vidéo. Est-ce que tu peux, Philippe, mettre l'image, voilà. C'est sur YouTube, c'est par le groupe qui s'appelle Tout pour sa gloire. Et voilà, le sujet, c'est peut-on pardonner et porter plainte pour un abus sexuel ou n'importe quel autre sujet. Je vous invite à la regarder parce que la personne qui a étudié le sujet vous en parlera bien mieux que moi. Mais voilà, moi, de ce que j'ai compris, c'est que on reste habitant de cette terre. Et si on veut que les choses se passent bien dans cette société, c'est aussi notre rôle de discuter, de parler. Et moi, j'ai pas dit je veux qu'il passe 20 ans en prison. Je vais juste dire ben voilà, j'ai envie que les gens soient informés en fait, que ce soit pas tu. J'ai envie que ses petits enfants le sachent. J'ai envie que voilà, ce soit pas mis sous comment on dit, enfin sous. Il y a plein de propositions, enfin un secret quoi. Et c'est une affaire personnelle, j'en fais pas une doctrine, mais moi j'ai eu la paix, que c'était bon pour moi de le faire. Et au travers du processus, à chaque étape, comme je vous ai dit, je me suis sentie joyeuse, alors que bon, je m'y attendais pas. Enfin, je me suis sentie en paix et j'avais la certitude que Dieu était avec moi dans ce processus et que c'était bien, que c'était bon. Et je sais pas vraiment quelles conséquences ça va avoir. Il y a énormément de chances, parce que ça aussi c'est une triste vérité, que ça n'ait aucune conséquence. C'est-à-dire, que le procès n'aboutisse pas. Que ce soit classé sans suite, comme la plupart des affaires de ce genre, en tout cas en France. Et, moi, si je pouvais choisir vraiment ce qui se passe, ce que j'aimerais surtout, c'est voilà, que les gens sachent. Donc quand, là, l'affaire a été traitée ici à Lyon, je suis désolée, c'est un peu décousu là, ma manière de parler, j'ai porté plainte ici à mes yeux, en fait. Ma famille a été auditionnée aussi, l'enquête a été très bien menée par un commissaire qui a été vraiment top. Et maintenant que tous les témoignages ont été réunis, l'affaire, elle est partie à Nantes. Et à Nantes, c'est quelqu'un d'autre, un autre commissaire qui sera en charge de l'affaire et qui, en fonction de l'ordre des priorités, des affaires qui arrivent à Nantes et tout, un jour, ira voir ce monsieur... on dit l'inquiéter, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas avoir un entretien avec cette personne. S'il confesse, je suis pas tout à fait au clair sur les étapes, mais en tout cas d'abord voir cette personne, puis informer sa famille, et ensuite il y aura une décision de justice. Donc moi, ce dont je vous parle, là où il y a beaucoup de chances que ça n'aboutisse pas, c'est la décision de justice. Mais déjà, les étapes d'avant, pour moi, elles sont vraiment importantes. Ne serait-ce que si je retourne en arrière d'avoir porté plainte à mes yeux et que ma famille soit venue porter plainte aussi, témoigner, ça a libéré la parole dans ma famille. Et ça, dans les familles, c'est aussi des gros sujets tabous où on ne dit pas les choses. Et donc, de parler avec mes frères et sœurs, et vous, comment vous avez vécu toutes ces années à côté de cette famille qui s'est avérée être toxique pour nous tous. Moi, j'ai été concernée un peu plus que mes frères et sœurs, mais ma sœur seconde, elle a aussi subi de l'exhibitionnisme et d'autres choses comme ça. Et pour les autres, il y a aussi eu des choses difficiles au niveau de l'amitié, presque de la manipulation. Enfin, ça a été vraiment dur pour nous tous. Et donc, d'en parler ensemble avec mes parents, avec mes frères et sœurs, c'était hyper important. Tout d'un coup, le sujet devient, alors on va pas le ressortir à toutes les fêtes de famille, mais le sujet devient ouvert. On sait qu'on peut se confier. Aujourd'hui, il y a des petits-enfants dans ma famille, mes sœurs ont des enfants. Et ça a été l'occasion aussi de prier ensemble, mettre une limite dans nos lignées générationnelles, de dire on veut plus de ça pour nos enfants. S'il y a des choses qui viennent des générations d'avant, nous maintenant on trace une ligne avec le sang de Jésus et on dit que ça s'arrête avec nous et que ça coule pas sur nos enfants. Et voilà, de vraiment prier pour la protection aussi sur les enfants, tout ça. Donc le processus de la plainte, j'en suis déjà reconnaissante en fait, même si ça n'aboutit pas en termes de condamnation. Je suis déjà contente de ce qui s'est passé et je ne m'attendais pas à l'être. Et donc voilà, merci Dieu aussi pour tout ça. Alors, je ne veux pas vous inquiéter, mais je veux qu'on se rende compte que c'est vraiment une réalité. En France, il y a toutes les 3 secondes un enfant qui subit une agression sexuelle par quelqu'un de sa famille ou autre. C'est énorme. Et voilà, moi, quand j'entends ça, mon cœur, il peut se déchirer. Juste, mais Seigneur, pourquoi ? Enfin, c'est horrible. On a une arme surpuissante, c'est qu'on est accompagné par Dieu lui-même dans nos vies. Et on n'a pas à avoir peur pour nos enfants, parce que de toute façon, pour ce sujet ou quoi que ce soit, on ne pourra jamais prévenir de tous les dangers de la vie quand elle traverse le passage piéton ou n'importe quoi. Enfin, je veux dire, des dangers, il y en a partout, tout le temps, et on ne pourra jamais sécuriser 100% le périmètre autour de nos enfants ou des personnes de notre famille. Par contre, on a déjà ça, une arme puissante, c'est la prière. Et moi, je vous encourage vraiment à toujours ouvrir le dialogue avec vos enfants. Toujours garder ce lien, même dans l'adolescence, quand ça devient compliqué et tout ça. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que tu es en confiance avec les personnes autour de toi ? Est-ce que tu sais à qui parler si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien ? Et de sensibiliser aussi peut-être sur le corps, surtout quand ils sont petits. C'est à toi. Personne ne peut toucher sans te demander. Et il faut oser parler de ces sujets, même si ça va faire bizarre, alors peut-être pas entre deux jeux de Lego, mais à un moment en tout cas où vous sentez que vous avez l'attention de votre enfant, votre fils ou votre fille, de parler de ça. Le corps, c'est quoi ? C'est quoi les limites ? Quand est-ce que les autres, ils ont pas le droit ? Enfin, qu'est-ce que j'ai le droit d'accepter ou pas ? Et c'est pour ça aussi qu'il y a une autre vidéo, si tu peux mettre, Philippe. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, et si jamais vous ne savez pas comment vous adresser à vos enfants, j'ai trouvé que celle-ci, elle était plutôt bien faite sur le vocabulaire et adaptée aussi, je ne sais pas trop à quel âge, mais vous regarderez et vous jugerez pour vous-même si vous pouvez en prendre des choses pour ensuite retransmettre à vos enfants. Le titre, c'est du coup « Ton corps est à toi, c'est toi le chef ». Et c'est vachement important, cette notion de consentement. Et ça peut commencer jeune. Moi, j'avais 6 ans, c'est inimaginable, 6 ans. Et des fois, c'est même encore plus jeune. Donc, en tant que parent, grand-parent, je vous encourage à parler avec les enfants qui sont autour de vous, oncles et tantes aussi, ou juste amis de la famille et tout, pas d'inquiéter les enfants avec ça. T'es sûr, pas d'être négatif dans la manière d'ouvrir la discussion. Mais juste dire, est-ce que tu te sens bien ? Il y a des choses qui te gênent ? Non ? Enfin, voilà. Je veux terminer par prier pour toutes ces casseroles qu'on traîne dans nos vies. Et je veux vous dire aussi que je pense que vraiment sans... mon héros. J'en serais pas là aujourd'hui. Je sais pas comment je serais, mais je serais sûrement en train de galérer avec mon corps, les autres, la peur de l'autre, la confiance en soi, le rejet, la culpabilité. Et d'ailleurs, je pense que tout n'est pas réglé non plus. Je sais que, par exemple, par rapport à la culpabilité, il y a encore des choses où c'est pas vraiment net dans ma vie. Je me sens souvent coupable par rapport aux gens, de ce que j'ai fait ou pas fait, est-ce que j'étais trop, est-ce que j'étais pas assez. Et je me dis, enfin, quand je pense à la culpabilité, je vois la racine dans ma vie, et du coup, je voudrais continuer à faire ce travail, parce que ce serait plus simple dans ma vie s'il n'y avait pas ces questions-là, et que les rapports, ils étaient fluides et honnêtes et tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne se remet pas en question, mais juste, vous avez compris, en gros, je suis toujours en train de me dire, d'avoir un retour sur moi-même, est-ce que je suis assez bien, pas assez, et tout ça. Voilà, bon, du coup, Seigneur, merci déjà, parce que tu m'as sauvée, tu m'as libérée de cette histoire, et ce soir, je veux vraiment te dire merci. Merci parce que sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui, et tu as été le meilleur médecin pour moi. Je veux prier aussi que tu puisses être ce médecin magnifique pour tous mes frères et sœurs ici. Je prie que dans toutes les prisons de nos cœurs, tu te fasses un chemin et que chaque personne puisse entendre l'appel à sortir de ces prisons. Je pense que le Seigneur nous dit ce soir qu'il veut qu'on sorte de toutes ces choses qui nous tiennent captifs, captives. Et le chemin de guérison, il ne se fait pas en un instant. Il peut être long. Mais Dieu nous y appelle vraiment, en fait, sur ce chemin de guérison. Merci, Seigneur, parce que tu sais exactement comment parler à nos cœurs. Tu sais comment attirer notre attention et tu sais comment nous soigner. Et je prie que ce soir, il y ait des prisons qui s'ouvrent. Qu'il y ait des bouches qui s'ouvrent, des paroles qui se libèrent. Et merci pour ces projets de guérison et de liberté que tu as pour nous. Merci, Papa. Amen.